Bonjour, je suis Jean-Paul Massé, militant de Lutte ouvrière, le mouvement représenté par Jean-Pierre Mercier et Nathalie Arthaud. J'ai longtemps travaillé et milité syndicalement et politiquement aux usines SNR de l'agglomération d'Annecy. Ce sont des engagements que je poursuis d'autant mieux et d'autant plus que je suis maintenant retraité. Comme bien d'autres dans les classes populaires, mes camarades de Lutte ouvrière et moi-même vivons cette période avec une profonde indignation et révolte, non seulement contre ce gouvernement, mais aussi et surtout contre tout cet ordre social capitaliste que Macron, comme tous ses prédécesseurs, défend. Pendant plusieurs semaines, les personnels soignants ont été envoyés au front sans armes et sans munitions. Le manque de moyens de protection durera encore plus encore pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les EHPAD, les structures prenant en charge les personnes handicapées, les aides à domicile. Tous, ils durent se débrouiller seuls. Pendant combien de temps les salariés de la logistique, du nettoyage, du gardiennage, du commerce, travaillant dans les grandes enseignes de la distribution, ont dû bosser dans l'insécurité? Par contre, quand fut venue la période préparatoire au déconfinement, leurs propres patrons, les Leclerc, les Auchan, etc., 12 jours seulement après les commandes, annonçaient la mise en vente de plus de 400 millions de masques, y compris des masques chirurgicaux. Car oui, quand s'annoncent les profits, rien n'est impossible pour les patrons. Mais quand il s'agit de sauver des vies, ils n'en ont que faire. Dans toute cette crise sanitaire, l'État et la bourgeoisie vont d'incurie en incurie avec le plus profond mépris pour la population. Le gouvernement n'hésitant pas à se contredire et surtout à mentir effrontément. Pour ne citer que l'affaire des masques, les ministres en début de crise ont martelé qu'ils étaient inutiles. Et voilà que pour le déconfinement, ils les rendent obligatoires dans les transports en commun. C'est que, tout le monde le sait maintenant, il fallait masquer la pénurie et l'abandon des stocks sanitaires stratégiques. Pendant toute cette crise, ni les grands groupes capitalistes, ni le gouvernement n'ont voulu déployer les capacités techniques et industrielles pour fabriquer ne serait-ce que les moyens de protection nécessaires dans les semaines où il y en avait le plus besoin. Nous sommes dans un pays où les dirigeants politiques flattent les grands capitaines d'industrie, les premiers de cordée, où tout ce beau monde s'auto-félicite sur les grandes réussites dans l'aéronautique, le spatial, l'industrie de luxe, où dans les usines, les grands managers nous cavent de discours sur l'industrie 4.0, l'usine du futur. Mais quand il s'agit de produire en grande quantité de simples masques, c'est-à-dire 4 bouts de tissu et 2 élastiques, là il n'y a plus personne. Ou plutôt si, heureusement, il y a des dizaines de milliers de simples mères de famille, des petits artisans, des associations de quartier, des employés communaux qui font avec ce qu'ils ont. Et eux, ils ont en particulier la capacité d'initiative, le sens de l'intérêt collectif. Je voudrais aussi donner un exemple des absurdités criminelles du capitalisme qui m'a été rapporté par les travailleurs de l'usine Dassault d'Argonnais, près d'Annecy. Le confinement y a été très bref, puisque dès la fin mars, 90 salariés étaient rappelés au travail sur les 450 habituels. Au total, avec tous les autres sites Dassault en France, soit environ 8500 salariés, ce sont plus de 900 travailleurs qui ont été rappelés et mis au boulot, en y rajoutant les 4000 mis en télétravail. Pour, en particulier, assurer, vous savez quoi, les livraisons des commandes d'avions militaires Rafale, ainsi que les programmes du Falcon, l'avion des hommes d'affaires. Machine à tuer et machine à fric. Voilà les urgences dans cette société. Au travers de ce qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, on voit bien quelles sont les priorités dans la société capitaliste. Le monde peut s'écrouler autour d'eux, les capitalistes restent des fauves et en pleine pandémie, la seule chose qui leur importe, ce sont leurs parts de marché, leurs profits, leurs cours boursiers. Toute cette période a plongé aussi des millions de familles populaires dans des difficultés matérielles, financières et même psychologiques insupportables. Ceux qui ont été maintenus au travail y allaient souvent la peur au ventre. Les soignants, complètement épuisés. Ceux qui étaient en emploi précaire n'ont plus de gagne-pain. Et ceux qui ont été mis en chômage partiel voient leur salaire amputé, comme le sont mes ex-collègues ouvriers de la SNR qui sur leur salaire ont perdu entre 300 et 400 euros sur la paye d'avril. Et c'est encore à eux que les patrons exigent de sacrifier leurs jours de congé, de RTT, alors que dans le même temps, les grandes entreprises et les banques ont guichet ouvert auprès de l'État et de la BCE. Et tout cela n'est qu'un avant-goût, car cette crise sanitaire déclenche une récession sans précédent dans un système capitaliste déjà en crise. Plusieurs porte-paroles patronaux prévoient déjà des plans massifs de licenciements et spéculent déjà sur le nombre de futures morts économiques, comme s'ils étaient aussi inévitables que les morts de l'épidémie. Car dans cette crise, comme dans chaque crise, la bourgeoisie et son État voudront la faire payer aux travailleurs. Comme à chaque fois, ils nous diront, il faut faire des efforts pour redresser le pays, il faut défendre nos entreprises contre la concurrence étrangère. Tout ce baratin pour mieux dissimuler qu'à chaque fois, ce sont les travailleurs qui trinquent, mais que ce sont les capitalistes qui empochent et sabrent le champagne. Non, les travailleurs ne doivent pas se laisser faire, car ce n'est pas à eux de payer les dégâts d'un système qui n'est capable que de nous conduire de crise en crise, de guerre en guerre, de catastrophe en catastrophe. Oui, il est grand temps d'exproprier la bourgeoisie et que les travailleurs prennent la direction de la société. C'est pour cela que le programme du CNR ne fait pas partie de nos références. Car à l'époque, combien de résistants sincères qui voulaient non seulement en finir avec l'occupation et les fascistes de Vichy, mais aussi changer en profondeur la société, ont dû être déçus des jours d'après, avec, dès le 8 mai 1945, les massacres de Sétif et Guelma en Algérie. Car les jours heureux n'étaient pas pour le peuple colonisé, ni pour les travailleurs de métropole d'ailleurs. Bref, ce n'était pas pour tous les opprimés. À cette époque, les jours d'après ont vite ressemblé aux jours d'avant, avec la remise en selle quasi immédiate des mêmes flics, juges, bref, de tout l'appareil d'État au service des riches qui avaient gardé le vrai pouvoir. Même dans la seule grande entreprise métallurgique nationalisée, Renault, il a fallu que les travailleurs fassent grève au printemps 1947 pour ne pas crever de faim. Sans parler des mineurs grévistes de 1948 contre lesquels furent envoyés l'armée et ses chars. Alors bien sûr, aujourd'hui on ne retient que l'État social, la sécurité sociale, mais après 6 ans de guerre, de massacres et de destruction, il fallait bien quelques concessions pour que les travailleurs reconstruisent la France et retroussent les manches, comme on disait à l'époque. Car, comme le dit la phrase célèbre, il fallait tout changer pour que rien ne change. En effet, la bourgeoisie en France, comme dans les autres pays, ne voulait pas, comme au sortir de la Première Guerre mondiale, subir une vague révolutionnaire comme celle qui avait commencé en 1917 en Russie et qui avait embrasé une grande partie de l'Europe. Alors, pas plus aujourd'hui qu'à cette époque. Il ne s'agit de remettre en selle un système capitaliste qui a fait son temps et depuis longtemps a fait la preuve qu'il ne pouvait conduire qu'à la catastrophe. Faire croire qu'il peut être moins injuste, plus social et même plus écologique est un leurre, encore plus flagrant dans la période de crise que nous subissons et qui ne peut que s'aggraver. Nos références à lutte ouvrière, nous les prenons chez les révolutionnaires de 1917, qui eux-mêmes se référaient au manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, qui dès 1848 défendait l'idée que le prolétariat devait mener jusqu'au bout une révolution abolissant l'appropriation privée des moyens de production par la bourgeoisie et que le capitalisme était devenu un frein pour l'humanité. Non, le capitalisme n'a pas dérivé vers un ultralibéralisme que l'on pourrait corriger, autant demander à un lion de devenir vegan. La seule issue est que les travailleurs renouent avec le combat des générations anciennes visant à contester cette mainmise du grand capital sur toute la société. Cela veut dire aussi construire un parti réellement communiste, réellement révolutionnaire, pour défendre ses perspectives. C'est la tâche à laquelle les militants de lutte ouvrière se sont attelés. La période qui vient nécessitera que les travailleurs s'organisent au niveau des entreprises, des quartiers, des localités, pour s'opposer aux attaques patronales et gouvernementales, ne serait-ce que dans un premier temps, pour que les reprises du travail après le déconfinement se fassent sous leur contrôle, sous le contrôle ouvrier. Cela peut être la première étape de l'organisation de la classe ouvrière pour défendre ses salaires et ses emplois, et un jour, changer le monde. Pour notre part, c'est notre conviction. Toutes les solidarités, les initiatives, l'énergie et le dévouement à l'intérêt général dont les travailleurs ont fait preuve dans cette période démontrent à nouveau que ce sont eux qui sont les seuls porteurs d'avenir pour l'humanité.